Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou campuslille.com. Au menu de cette émission, nous avons rendez-vous avec notre motarde en or, N-O-R-D, Patricia, bonjour.
Bonjour, tout d'abord mes meilleurs voeux motards à tous les auditeurs pour 2015. Il y a une nouvelle année commence. Et avec elle, espérons-le, de nouveaux projets à imaginer, de nouvelles destinations pour rêver. Et parmi celles-ci, il y en a tout à fait accessibles dans notre beau pays, que souvent nous négligeons de découvrir.
Effectivement, dans quelques instants, nous allons partir au cœur du Puy de Dôme, à Saint-Rémy-de-Blot, à la rencontre de Jérôme et Isabelle, hein, les organisateurs de la toute dernière hivernale de l'année du camping Motoroute 99, La Sioule. Patricia.
Tout à fait, et ils pourront nous présenter leur établissement. Je pense que ça va en séduire plus d'un.
Voilà, ça s'appelle la Last Hivernale.
Oui, pour la manifestation qui aura lieu du 13 au 15 mars, c'est la Last Hivernale à La Sioule.
Le retour du moutard lecteur. Yanis va nous faire découvrir le livre de Fabrice Tulane, Roue libre. 8 ans autour du monde.
Bonjour la Miche.
Bonjour Yanis.
C'est un très très beau bouquin, on va en parler.
Hier soir j'ai lu un peu.
Tu l'as lu
passages.
Un peu, c'est dense, hein, mais
c'est un jeune.
C'est un jeune, il était jeune, maintenant il a 40 ans.
Maintenant il a 40 ans.
Bon, non,
mais
jeune,
il faisait un peu de motocross, voilà. Mais en fait ses parents étaient voyageurs.
C'était des
en fait.
Voyageurs.
Ils voyageaient dans une vieille estafette, minimum aménagé, tu vois le truc, un petit gaz, 2-3 lits, voilà. Et lui il a suivi les parents. Non.
Il a suivi la tradition familiale en tout cas.
Et puis. En fait, ça lui titillait, hein, partir. Il ne pensait qu'à ça, en fait, faire le tour du monde.
Voilà, il voulait partir 2 ans, il est revenu 8 ans après.
Il s'est un peu perdu en cours de route.
Mais on va
c'est le suspense.
C'est ça le bouquin. J'ai lu hier soir un peu les extraits. Bon, c'était bien. Bon, voilà, on continue notre tour de table avec Moni. Moni, bonjour.
Bonjour.
Pour toutes les ch'tis en moto qui vont hériter. Alors, c'est pas le 7 mars, hein, c'est le 8 mars.
Oui, mais on fait l'événement le 7 mars.
Et si sur la région du Nord, ce sera le 7 mars. Alors,
voilà, pour nous, pour toutes les ch'tis à moto.
La,
oui.
la fête des femmes, donc. Hein,
oui.
Voilà. Donc, c'est en faveur du jour de la femme. Et ben, c'est important. Hein, il faut y penser.
Mais on est important.
On est revenu un petit peu sur le d'où ça vient cette journée des femmes.
Hein. Ouh là là, c'est vieux ça.
Non, c'est vieux. On en parlera tout
c'est
à l'heure.
Très, très
mais
vieux.
Il faudra toujours rappeler, tu sais, parce qu'on oublie vite aussi. Voilà. Nous sommes également avec. Alors aujourd'hui, c'est un spécial. Alors là, c'est une naissance aujourd'hui, la genèse d'une rubrique, la naissance spéciale Sidecar avec animée par Raphaël Plantevin. Raphaël,
bonjour.
Alors tu vas nous.
C'est gentil de donner mon nom.
Tu vas pas nous faire comme ça, Raphaël.
C'est mon numéro de téléphone. C'est
voilà. Hein, Raphaël, tu vas nous parler un peu parce que. Alors pourquoi une rubrique Sidecar? Parce que tu t'es étonné de ne plus en voir.
Non, c'est pas le fait que je sois étonné de ne plus en voir.
Sur les routes, ne plus en voir sur les routes. Et pourtant, il y en a plein les garages.
C'est le fait qu'on n'arrive plus à voir les sidecaristes comme on les voyait avant. Donc, comme je roule en sidecar, je suis étonné qu'on n'arrive pas à se rencontrer. J'aimerais bien répertorier un petit peu tous les sidecaristes qu'il y a dans le Nord-Pas-de-Calais pour pouvoir essayer d'organiser quelque chose, monter des renseignements, pouvoir se voir. Parce qu'on a l'impression d'être tout seul quand on roule en sidecar. Pourtant, on est nombreux. Il y a quand même 7000 sidecars immatriculés en France. Donc, on devrait pouvoir en voir.
C'est bizarre. Où sont ces sidecars?
La Miche, il est où? La Miche, il est où?
Non, mais moi, attends.
Il est où ton sidecar?
Voilà. Allez, dernier invité, mes surprises, hein, aujourd'hui, c'était Benoît Delmotte, le président de la Fédé du Nord.
Voilà, il en faut, la FFMC. Ouais.
Voilà, tu vas nous parler.
La française des motards en colère.
Voilà, hein, Benoît. Ben,
toujours en colère.
Toujours en colère. Ouais, bon, il ne faut pas non plus toujours être en colère non plus.
Non, mais la colère, ça peut être constructif.
Oui, bien sûr.
On n'est pas toujours fâché.
La colère, ça peut être constructif, effectivement. Quelquefois, ça sert. Donc, alors, Benoît, grand rendez-vous dimanche prochain, le week-end. Prochain,
ouais, week-end
donc,
prochain pour l'Enduropal,
donc
avec les célèbres relais Calmos. Hein, donc,
voilà, hein, la Fédé se mobilise hein, pour accueillir les motards sur la route, hein, leur offrir un café ou un chocolat chaud, parce que
aussi.
Effectivement c'est important. Donc il y aura pour le Nord, ce sera donc avec le motoclub Red Zone.
Avec les Red Zone à Calais, ouais, on se place Foch, hein, au bar Lovercraft, et puis à Le Parc, comme traditionnellement pour la FFMC 62, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, donc je vais les représenter dignement.
Très bien, merci Benoît. Les infos au club avec Christine. Bonjour Christine.
Bonjour la Miche.
Très bien. Et forcément à la technique et à la programmation musicale, c'est Laurent, c'est Monsieur Laurent Rollier.
Rain keep falling, you watch the
C'est le magazine de la moto, voilà, on part dans le pit d'homme, Patricia.
Oui, Amish. Donc aujourd'hui, je vous propose de nous suivre en Auvergne, plus particulièrement donc dans le Puy-de-Dôme, à la rencontre de Jérôme Isabelle du camping moto route 99. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
On est très content de t'avoir au micro.
Nous également.
Toi de ton téléphone. Voilà, donc le camping motoroute 99, il se situe exactement où, Jérôme?
Ah ben, il se situe pile au centre de la France, entre Clermont-Ferrand et Montluçon, sur un axe nord-sud, est-ouest, je dirais presque parfait.
Et tu revendiques le fait qu'il soit comme ça aussi central, je dirais, au niveau aussi européen, parce qu'il y a beaucoup de motards qui viennent de toute l'Europe, chez
oui,
toi.
Tout à fait. En fait, ce camping moto est très très particulier, parce qu'il a été créé en 1994 par un monsieur qui s'appelait Wim Schouten, à partir d'une problématique très simple, c'est-à-dire comment réaliser et effectuer une étape, je veux dire, nord-sud pour les gens du nord de la France ou du nord de l'Europe. Qui ne trouvaient jamais d'hébergement lorsqu'ils arrivaient à 10 ou 15 ou 20 motos et qui se faisaient régulièrement refouler par les campings qui ne voulaient pas avoir 30 motards avec la réputation que ça pouvait avoir à l'époque, qui était certainement fausse, mais bon, c'était un petit peu comme ça. Et en fait, il a eu cette idée simple un jour de dire ben, je vais créer l'étape qui n'existe pas et je vais tracer une ligne nord-sud, je vais me mettre au milieu et trouver un endroit sympa, avec des belles routes, à un endroit qui peut être touristique pour que les motards puissent y faire étape.
Et sur un terrain qui est quand même assez grand pour un camping.
Pour un camping spécifique motard.
Voilà, spécifique motard, 100% motard. Hein.
C'est 100% motard, donc seuls, bien sûr, les motards, ils sont admis. Les véhicules, ils sont interdits en dehors des deux roues ou des trois roues. Donc quand je dis motard, vous parliez tout à l'heure des sidecars, donc les sidecars, les trikes, tout ça, il n'y a pas de problème. Même les scooters, du moment qu'il y a un moteur et des roues, et surtout moins de quatre roues. Voilà.
Donc c'est la rencontre depuis, comme tu le dis, plus de 20 ans d'énormément de motards et les lieux en portent la trace.
Ah oui, les lieux sont parés entièrement aux couleurs des clubs français et européens depuis une vingtaine d'années. Donc c'est lorsque vous rentrez, que vous pénétrez par exemple dans le restaurant, bah vous pouvez constater qu'il n'y a pas de plafond. Le plafond, c'est des centaines de t-shirts aux couleurs de tous les clubs. Les poutres et les murs, les charpentes, tout est recouvert des cartes, des patchs, des autocollants. Également de tous les clubs, les forums existants un petit peu partout. Dans les plus lointaines contrées de notre pays, souvent sont passés par ici. Voilà, et ça continue depuis environ 20 ans.
Donc, en termes d'accueil, sur un plan pratique, il faut réserver ou on peut arriver comme ça. Qu'est-ce que tu recommandes aux personnes qui seraient intéressées?
On garde la tradition, c'est-à-dire qu'on s'est adapté bien sûr aux demandes de qui ont évolué depuis 20 ans. Mais depuis 20 ans, ce qui existe, qui n'a pas changé, c'est que les motards ici peuvent arriver à toute heure du jour et de la nuit. Bon, il vaut mieux prévenir s'ils comptent arriver en pleine nuit, mais qu'ils arrivent secs ou trempés, ben, on s'occupera d'eux, hein, on les réchauffera, on les séchera, on leur donnera à manger, on leur donnera à boire, et de toute façon, tout campeur qui débarque chez nous a de toute façon droit à son pot d'accueil. En général, il va directement à notre pompe à bière, qui est un moteur de moto Guzzi,
ouais.
Et il se fait prendre en photo.
D'époque, hein, d'époque.
C'est quel moteur?
Quel moteur,
c'est quel
demande
type de moteur?
Ah, c'est un moteur de Moto Guzzi T850, ah ouais. Qui est d'origine et qui était le moteur du fondateur Winschoten. Donc cette machine est toujours sur le bar, elle y restera. Et voilà, on la rénove de temps en temps, mais ça continue.
Ça ne peut être que de la bonne bière, hein, qui sort de là.
Ah, c'est de la bière auvergnate. Pure crue.
Oui, alors... Oui, je pense que ça vaut le déplacement, déjà, pour comparer, parce qu'on est assez branché bière, hein, dans la région.
Ah oui, ici, bon, on a de très bonnes bières locales, donc nous, on a cette politique-là, on fait travailler les artisans et les fournisseurs locaux, et on travaille, quand je parlais des choses qui ont un petit peu évolué, c'est qu'aujourd'hui, ben, les motards sont pas toujours... de la même génération qu'il y a 20 ans, ils ont souvent 20 ans de plus, donc ils veulent un petit peu plus de confort, ils nous demandent très souvent de pouvoir avoir un chalet. Donc pour pouvoir avoir le chalet, puisqu'on en a 18, sur 350 places de camping, on a 18 chalets de 2 à 4 personnes, des chambres d'hôtes, des dortoirs et des grandes tentes militaires pour les groupes, où là ils peuvent se regrouper par groupe de 16 personnes, il y a 3 grandes tentes. Mais souvent, les motards qui ont passé un petit peu la cinquantaine arrivent en couple et nous demandent un petit chalet. Donc il est préférable de réserver, d'où la création, bien sûr, il y a plusieurs années du site internet qui permet de faire les réservations. Tout est renseigné dessus, les tarifs, les modalités, comment ça fonctionne, s'il faut prendre des duvets ou non, suivant le type d'hébergement qu'on choisit.
Et également les tarifs de ce fait.
Il y a bien sûr tous les tarifs. Donc là, au niveau des tarifs, ça part... le camping, le simple camping, c'est 10 euros par personne. Et ensuite, la demi-pension commence à partir de 31,50 euros, où vous avez le repas complet du soir lorsque vous arrivez. Bien sûr, votre pot d'accueil. Et le petit déjeuner le lendemain matin et la nuit en camping. Et ensuite, vous pouvez choisir d'autres types d'hébergement, chalet, tente militaire, chambre d'hôte.
Et il y a une règle alors, hein, par rapport à, justement au repas pris, tu tiens à ce que ça se fasse à une table commune et à la même heure.
C'est un lieu motard, un lieu de rencontre. Donc ce n'est pas un lieu de villégiature pour un couple qui va vouloir s'isoler pendant tout le week-end. Tout le monde mange ensemble, la même chose. Au même moment, que ce soit les soirs de concert, puisque nous sommes également une scène rock locale où nous produisons des concerts tous les samedis soirs, à ce moment-là, tout le monde mange ensemble, même les musiciens. Le concert démarre après, mais c'est toujours convivial et toujours on échange avec tous les Français, les Européens qui se mettent à la même table. On tâche même de les mélanger, essayer de pas forcément mettre les mêmes groupes ensemble. Et en général, ça donne lieu à des éclats de rire assez rapidement. Voilà.
Et une précision, donc, il vaut mieux pas y aller avec de jeunes enfants, hein, et sans chien,
sans chien, de préférence. Sur Internet, on a spécifié que ce n'était pas un lieu pour les enfants, pour que les gens nous préviennent. Parce que si on sait à l'avance, on peut s'adapter, leur dire oui, là, vous pouvez venir à cette période-là, ou à cette période-là, non, c'est pas conseillé, si vous venez avec, bon, à partir de, on va dire, 21h, 22h le soir, c'est dans la tente ou dans les chalets, on ne reste pas au bar, au milieu des motards. Vous imaginez le type de petit débordement qu'il peut y avoir. Voilà. Mais c'est toujours bon enfant, c'est jamais quelque chose de...
C'est familial aussi, quand même.
Voilà. Et on essaye de donner toujours cet aspect familial, un petit peu comme dans des grandes chambres d'hôtes ou des grandes auberges à l'ancienne.
Et les concerts, c'est tout au long de l'année, hein, une cinquantaine de concerts sur l'année, gratuits.
Une cinquantaine de concerts par an. Donc bon, là, en ce moment, nous sommes fermés parce que nous avons fait de gros travaux, notamment pour l'hivernal dont on parlera plus tard. Et on réhabilite l'ensemble du camping, aussi bien les cuisines, les gîtes, les chambres d'hôtes, les dortoirs et les extérieurs.
Un large panel possible, hein, d'activités, tout ça, je crois qu'on peut effectivement le découvrir, mais de façon très très claire sur le site. Et on va te retrouver juste après un petit morceau de musique, Jérôme, pour effectivement parler de cet important événement, hein, qui est l'hivernal, qui va se tenir du 13 au 15 mars, donc à la Sioule.
D'accord, ok, à
tout de suite.
À tout de suite.
every night was killing me. My heart's so cold without you here. Oh baby, please baby, get inside, my time is free. Can't face the war and confusion. Broken heart is in my song. Little angels spinning around me.
Au cœur du Puy-de-Dôme à Saint-Rémy-de-Blois avec Jérôme au téléphone.
Oui, on retrouve Jérôme donc pour nous parler plus particulièrement de cette hivernale qui va se dérouler du 13 au 15 mars. Jérôme. Et voilà, donc comme tu le signalais tout à l'heure, c'est vraiment un lieu de rencontre. Hein, c'est l'occasion pour les bikers de tous les horizons, on va dire, hein, de pouvoir tisser, je reprends un peu les termes, hein, de nouveaux lieux de solidarité entre eux, organiser des rendez-vous, des trips, bref, communiquer, se rencontrer.
Voilà, c'est un endroit qui permet aux motards qui viennent de divers horizons, notamment géographiquement lointains, on va dire, de pouvoir se retrouver ici, pouvoir communiquer en se voyant, en se parlant directement, en dehors des forums et des emails. Donc les liens se renforcent forcément lorsqu'on passe de bonnes soirées ensemble. Et ça permet également de se réunir et puis de fixer des calendriers, de fixer des échanges, des nouveaux voyages, des nouveaux projets.
Mais donc
on convie en fait des motards qui viennent beaucoup de Belgique, de Hollande, bien sûr de tous les clubs français, de venir se réunir ici, puisqu'on est, on va dire, un axe au milieu de l'axe Lille-Montpellier ou Nice-Brest. C'est un petit peu compliqué de se rencontrer pour des gens de Brest qui doivent aller à Lille, ou plutôt à Nice, pardon.
Et donc, le camping, là, est ouvert gratuitement aux motards?
Alors, pendant les hivernales, parce que la tradition des hivernales en général, le camping est toujours gratuit. Donc les gens vont pouvoir venir chez nous et rester en tente s'ils veulent faire une hivernale à la dure, on va dire, comme on l'a fait généralement. Mais les autres qui vont venir un petit peu plus loin et qui auront besoin peut-être de se reposer, d'être un petit peu plus au chaud, vont pouvoir réserver leur chalet ou leur tente militaire s'ils comptent se retrouver en groupe.
Donc c'est un super programme, hein. Super programme, la Miche, que l'on peut.
Alors effectivement, moi, Jérôme, je regarde le programme parce que c'est sur le calendrier des motoclubs à la page 13.
Oui.
Hein, donc je regarde, il y a des concerts, il y a des striptease aussi. C'est chaud alors là-bas dans le Puy-de-Dôme.
Ben, par cette saison.
Et ça réchauffe.
Oui, il y a des courageuses.
Il y a des courageuses.
Il y a peut-être des courageux aussi. Hein,
oui, Jérôme. Peut-être aussi.
Voilà. Mais bon, le programme n'est pas encore terminé. On est toujours en train d'établir le programme de l'hivernale qui est, je dirais, mouvant et qui va rester mouvant jusqu'à un mois avant l'ouverture. Donc, pour l'instant, on communique pas trop dessus. Bien sûr, il y aura les concerts habituels, les animations habituelles. Il y aura également des solutions de restauration. Normalement, les hivernales, ça se fait autour de Grand Bûcher. Donc, on a créé une aire, en fait, d'hivernale tout en haut de notre colline, où il va y avoir des grands bûchers et les gens pourront venir faire leur grillade. On mettra à disposition des barbecues.
Jérôme, après le striptease, on mange un petit morceau de cochon à la broche.
Cochon à la broche ou soupe à l'oignon, ça dépend de l'ambiance et du jour.
Très bien.
Et tout ça pour une somme vraiment accessible, 15 euros.
Alors, si vous inscrivez, enfin si les motards s'inscrivent aujourd'hui, ils nous renvoient en fait le bulletin de participation qui est sur internet, sur le site, hein, campingmotoroute99.com.
On le mettra aussi
sur Facebook. Oui. Et sur Camping Moto aussi, route 99. Ils nous le renvoient. À ce moment-là, ils peuvent s'inscrire pour 15 euros et ils ont donc droit au camping gratuit et à toutes les animations et accès entièrement à tout le week-end.
Et ça, il faut le faire avant le 15 février. Après,
il faut le faire avant le 15 février, puisque après, ben, pour les réservations notamment des chalets et des tentes, ça risque d'être un petit peu compliqué pour eux. Donc, ils sont prioritaires. Sinon, ceux qui arriveront, comme beaucoup quand même, arrivent toujours sans réserver le jour de l'ouverture ou le samedi, eux paieront 20 euros l'entrée. Pour pouvoir avoir le même type de service.
Alors, Jérôme, j'ai une question à te poser parce que là, dans le studio, on a quelques sidecaristes aujourd'hui parce qu'on va en parler du sidecar. Et l'un d'eux est fortement intéressé pour venir vous rendre visite, là, vous dire un petit bonjour et puis voir un peu comment va l'ambiance un peu.
Oui, oui,
sauf
oui,
que
oui,
ben, oui. Celui-là, le sidecariste, il a un petit bambino de.
Il a 4 ans.
3 ans.
Non, moi, tu vois, j'ai la cinquantaine. Je fais du sidecar depuis 25 ans parce que j'ai des enfants depuis cet âge-là. Ben voilà, quoi. Et puis, je suis vachement déçu de savoir qu'on peut pas venir avec des mômes dans ton camping, parce que moi franchement je me balade dans les consentes motards depuis 25 ans avec mes mômes et j'ai jamais eu aucun problème.
Est-ce qu'on peut faire une exception?
Donc c'est vachement décevant.
Ça se garde aussi les enfants, non? Hein,
ça
se fait garder.
Est-ce qu'on peut faire une exception?
Ouais, mais moi j'ai acheté un sidecar pour me balader en moto avec mes mômes.
Les enfants, on en reçoit quand même chaque année régulièrement, ça n'est pas strictement interdit, mais on ne veut pas qu'un sidecariste ou quelqu'un d'autre arrive avec son enfant sans avoir prévenu un soir de concentration où il va y avoir une soirée prévue assez chaude.
Voilà, c'est ça en fait. Voilà, d'accord.
Qui peut prendre en charge les enfants et les surveiller le soir et les empêcher de rentrer au bar, puisque nous, le bar est accessible à partir du restaurant. Et il y a quand même des législations auxquelles on est obligé, qui sont un petit peu contraignantes, notamment sur les mineurs. Donc, on met les choses au clair dès que quelqu'un réserve en disant je viens avec un enfant, on lui dit attention, c'est toi qui gères ton enfant.
Ah, bien sûr, ça on avait bien compris. Oui.
Voilà.
Bon, il n'aura pas accès au bar passé 20h. Normalement, il n'a pas accès au bar du tout d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Non, mais vous servez comme de l'orginin quand même.
Ah, on a tout.
Bon, il peut quand même boire. Bon.
Mais
alors, c'est dommage parce qu'il s'appelle Valentino en plus, le petit gamin.
Il s'appelle Valentino.
Valentino peut faire une exception.
Ouais.
Avec le bon numéro.
Ouais, okay, d'accord. Dis-moi Jérôme, alors moi j'avais il y a une petite ambiguïté voilà, on le lit comme ça nous, parce que tu marques accessible à tous les bikers et du coup moi quand j'avais lu l'annonce dans notre calendrier de Kick un coup là, j'ai dit c'est une concentration qui est réservée aux bikers, donc aux conducteurs, enfin aux pilotes de Harley, de custom quoi.
Non, il y a, je dirais que les pourcentages de fréquentation ici, on va dire que c'est 30% custom, 30% de trail type BM ou Varadero, et 30% du reste. Donc dans le reste, il y a aussi bien les sidecars, les trikes, les roadsters, et les routières et les sportives.
Jérôme, j'ai encore une petite question à te poser. Je sais que en région Auvergne, il y a un gros programme d'accueil pour les motards, hein, Auvergne terre de motards, hein, si je me souviens bien, oui, c'est ça. Et je voulais savoir si tu avais été contacté par les autorités du comité régional de tourisme d'Auvergne pour est-ce qu'ils t'ont listé dans leur programme, dans leurs itinéraires, est-ce que tu collabores avec ces gens-là?
Beaucoup moins maintenant que ce qui a pu être le cas il y a une dizaine d'années lorsque ces projets ont été lancés. Aujourd'hui, ça s'est bien calmé et on est obligé de faire beaucoup de travail nous-mêmes. Et c'est plutôt nous qui faisons les démarches pour joindre les collectivités, et on travaille beaucoup avec les mairies. Et on essaie aussi de tisser un réseau, je dirais, national, même s'il est informel et qu'on ne veut pas, parce qu'on veut rester libre. Mais on travaille beaucoup et on échange beaucoup avec les autres lieux qui sont des lieux de motophiles, hein, d'accueil motard, spécialisés dans les accueils motards, que ce soit des campings ou des relais. Et ça permet quand même de bien aiguiller nos motards qui viennent chez nous, qui ne savent pas trop où aller, qui ne savent pas trop quoi visiter. Ici, il y a énormément de choses, hein, que ce soit des sites géologiques, historiques ou touristiques. On a même des stations de ski l'hiver, pour ceux qui veulent venir à l'hivernal, qui veulent faire un peu de ski le dimanche. Il y a vraiment énormément de choses à faire. C'est vrai qu'on est peut-être un petit peu moins épaulé au niveau régional qu'il y a quelques années, mais on espère que ça pourra repartir.
D'accord.
En tout cas, on fait tout pour de notre côté.
Eh ben, écoute, si tu veux bien, moi, je te recontacterai en antenne, un de ces quatre, là, parce que je travaille dans le tourisme, et ça m'intéresse vachement d'avoir ton avis là. Donc, voilà. Okay. Je te remercie, Jérôme.
Sans problème, je te remercie.
Ben donc Jérôme, on est persuadé que ça va être l'occasion vraiment en mars de faire une super fête, et on suivra l'actualité par les photos que tu voudras bien mettre sur ton site.
Okay.
Et puis juste une petite question comme ça par rapport, bon c'est tout à fait anecdotique, mais le nom, il est en référence avec cette fameuse route 99?
Ah, alors le nom, c'est, je pourrais dire les noms, parce que c'est toute une histoire.
Oui.
Le camping a été créé et le nom existe encore, et beaucoup de gens nous appellent sous ce nom-là, le nom Moto Touché.
Moto
Touché.
Yeah. Moto Touché, c'est
ça. En fait, l'histoire de ce nom, le créateur l'avait appelé comme ça parce que il était hollandais, donc il maîtrisait pas très très bien la langue, et il avait cru comprendre que touché, qui veut dire toucher du doigt lorsqu'on trace une ligne et qu'on veut par exemple toucher le milieu d'une droite entre Amsterdam et Montpellier, c'est ce qu'il avait fait au départ, et il avait lu dans le dictionnaire que toucher, on peut être touché également par quelque chose, touché par la grâce de Dieu, et pour lui c'était le fait d'être accro de la moto et d'avoir été touché par la grâce de la moto, donc il l'avait appelé moto touché. Et au bout de quelques années où les gens lui posaient la question toute la journée et qu'il n'arrivait pas trop à se dépatouiller l'explication, il s'est rendu compte que le camping se trouvait sur la route départementale 99, qui était beaucoup plus simple comme nom, beaucoup plus adéquate. Et il a changé le nom et il l'a appelé Moto Route 99.
Donc sans aucune référence à la Route 99 aux États-Unis.
Ah, une référence complètement inversée.
D'accord. Bon, bah, écoute, avec le plaisir de t'avoir prochainement à l'antenne, peut-être l'an prochain, pour justement nous annoncer tous les événements que tu pourras préparer.
Avec grand plaisir, et je vous remercie à tous pour cette super émission et pour le travail que vous faites. Et j'en profite quand même, parce qu'il est encore temps, de souhaiter tous nos voeux à tous nos amis motards et à toute l'équipe de Radio Campus et de Kikankou.
Et bien, bonne année aussi au camping Motoroute 99, Jérôme.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Allez, à bientôt.
She can take that, don't bother me no how, baby. mistakes. Now it's gonna be alright, heaven's gonna swing. Forget about your heavy heart, forget about your pain. Listen to the melody, nighttime sweet refrain. Get a little sick of life, rock your blues away. Need a little mojo, need a little fun, need a little good time, need a little sun. I need a little mojo, no matter what you say.
Magazine de la moto, c'est sur Campus, c'est tous les dimanches de 11h à 12h30 sur le 106,6 ou campuslille.com. Allez, c'est le moment du motard lecteur avec Yanis, Patricia.
Oui, cette excellente rubrique qu'on voudrait voir ovationnée par tous nos auditeurs.
Il faut rappeler le but. Hein.
Oui, le principe.
On pense qu'il y a des motards quand même. Les motards, ça veut lire.
Un peu cultivé.
Si vous avez lu un bouquin, venez en parler ici à la radio.
Sans avoir une étiquette de cultivé ou pas cultivé, c'est pas le problème. Vous avez eu un coup de cœur pour une lecture, quelle qu'elle soit. Bon, une pub, ça serait un petit peu trop court peut-être pour venir nous la présenter. Mais si vous avez lu un bouquin, un article, vous lisez sur le net ou des choses qui ont rapport avec la moto, mais de manière plus large, des choses que vous pensez pouvoir partager avec d'autres motards, un polar, des infos sur la musique, pourquoi pas, eh bien, vous nous contactez. Vous laissez un message sur le forum si c'est possible, de préférence sur Facebook en message privé. On va vous contacter et puis on va concocter un petit passage à l'antenne, que ce soit dans les studios ou si vous habitez trop loin, eh ben ça sera par téléphone. Mais là, on a le grand plaisir que Yanis se prête à l'exercice aujourd'hui. Et donc, Yanis, tu vas nous présenter un bouquin que tu as lu déjà depuis quelques temps.
Bah oui, c'est un bouquin qui prend une bonne place dans ma bibliothèque et d'exposer, parce qu'en plus, je trouve que la couverture est très belle. Hein, c'est deux bottes de moto d'enduro, deux bottes d'enduro, comme ça. Et le titre de ce livre, c'est « Roue libre, 8 ans autour du monde ». Alors c'est un ouvrage...
À moto,
oui, j'ai oublié le terme. À moto, voilà, bien sûr, bien entendu. On ne va pas vous parler de 4x4, hein. C'est pas la place, voilà. Alors ce bouquin, bah, ça retrace l'histoire du Tour de Monde de Fabrice Tulane. Alors Fabrice Tulane, vous connaissez peut-être son nom parce qu'il a été chroniqueur à Moto Crampon et à Moto Journal. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a financé son voyage autour du monde. Et puis, non seulement ce monsieur écrit très bien, et en plus c'est un excellent photographe. Alors pour situer un peu autrement Fabrice Tulane, c'est quelqu'un qui connaît très bien la moto. On s'en doute, il a commencé d'ailleurs à l'âge de 9 ans. Il a été aussi champion régional de motocross en 1991. Et puis, comme le disait tout à l'heure la Miche, il a le voyage et la moto comme atavisme familial, parce que ses parents étaient motards et ils étaient grands voyageurs. Et il a gardé ça au plus profond de sa personnalité. Oui, tu voulais me dire quelque chose.
Oui, non, mais je voulais dire.
Je peux pas faire
justement... Non, pas de grand signe, j'ai simplement levé le doigt, gentiment. Donc, oui, parce qu'en fait, c'est ce bouquin, 8 ans, c'est long, et il ne savait pas a priori pour combien de temps il allait partir.
Ouais, t'as raison.
C'est quasiment une quête personnelle, un voyage initiatique. C'est quand même très très riche comme.
Tout à fait. Alors en fait,
comme période dans la vie de Fabrice.
Fabrice, au départ, il avait fait des études dans l'électromécanique. Ensuite, il trouvait que c'était un monde un petit peu déshumanisé. Donc, il voulait s'orienter vers l'enseignement. Et puis, il ne supportait pas ce monde un peu, fortement ingrat, qui ressentait très, très inhumain. Il s'est dit, ouais, j'ai besoin de faire un break et je vais partir faire le tour du monde. Et il s'était donné, en fait, 2 ans pour faire ce tour du monde. Et malheureusement, au bout des 2 ans, il s'est dit, je ne peux pas rentrer comme ça. Et finalement, il est rentré chez lui 8 ans après. Hein, après avoir parcouru les 5 continents, 46 pays et effectué 270 000 km au guidon d'une Yamaha 660 XTZ. Hein.
Et au départ, avec un sacré challenge, parce que c'est énoncé comme ça, hein, « Ose devenir qui tu es ».
Oui, absolument. Ose devenir qui tu es.
Et ces années-là lui ont permis de se trouver, de se construire en tant que personne avec les expériences qu'il va vivre.
Oui, mais je pense que de toute façon, un voyage comme ça ne peut que t'aider à te construire. On a reçu il y a quelques semaines Luc Cottrel. Voilà, je pense qu'il est revenu complètement différent lui aussi de son voyage. Il s'est trouvé. Lui aussi était parti pour une période beaucoup plus courte, hein, de 2 mois. Et il est revenu 2 ans et demi plus tard. Donc je pense qu'il y a. Et c'est le lot de pas mal de voyageurs au long cours, finalement. Ils se donnent un itinéraire, ils se donnent un temps de voyage, et puis ils ont beaucoup de mal à revenir. Hein. Alors, je vais revenir un petit peu sur le livre de Fabrice Tulane. Alors, le livre, comment se présente-t-il ? Ben, c'est un très beau livre en papier glacé, hein, de 111 pages. Une page consacrée au texte et une page de photos. Je crois qu'il y a plus de 140 photos de très belle qualité, hein, des photos extraordinaires. Je pense qu'il
est surtout réputé pour ses photos.
Ouais, il est surtout réputé pour ses photos. Je ne sais pas s'il s'est formé à la photo durant son voyage, sur le temps. Enfin, les photos sont vraiment magnifiques. Alors le texte, on suit de page en page, pays par pays, le périple de Fabrice, hein, qui est parti de Paris et qui a parcouru le monde dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire d'ouest en est. Hein, il a traversé l'Europe, l'Asie, les pays d'Asie du sud-est. Il a pris l'avion pour débarquer en Australie. Il a débarqué ensuite en Amérique du Sud. Il a remonté toute l'Amérique du Sud jusqu'en Amérique du Nord avant de revenir. Oui, c'est ça. Mais je me trompe peut-être là, mais
Bref, il
est revenu en Europe. Il a fait un petit break en Europe pour trouver, parce qu'il était à sec, il avait plus de sous. Et puis il est reparti quelques mois en Afrique de l'Ouest pour terminer son périple. Alors, je trouve que le texte, c'est très bien écrit, hein, le texte est vif, il est nerveux, hein, c'est une écriture très nerveuse avec des phrases courtes, parfois quelques mots, rarement, on a rarement 2 lignes de texte, une phrase de plus de 2 lignes, hein, donc c'est très vif, c'est très nerveux, très agréable à lire, on lit ça très... très facilement, hein. Il y a pas mal de traits d'humour dans le texte. Il y a aussi, on sent la tension par moment qui monte quand il arrive des mésaventures, avec en particulier les douaniers au passage de douane. On sent que c'est tendu et que passer ici en Europe, c'est facile de passer d'une frontière à l'autre. Ben, dans beaucoup d'endroits du monde, c'est très difficile. Même lorsqu'on arrive dans un territoire d'outre-mer français, hein, on sent que le passage, il passe du Guyana. Pas facile de rentrer au Guyana avec son propre véhicule. Et puis, il veut passer en Guyane française, bah c'est pas si facile que ça. Pour faire, par exemple, renouveler son passeport, il arrive un tas de pépins. Donc, pas facile du tout. Ce qui ressort de ce texte aussi, c'est l'importance que Fabrice donne aux personnages rencontrés, les hommes, les femmes, les enfants. Et ça se ressent aussi dans les photos, hein. Il y a beaucoup de photos de paysages magnifiques, mais ce qui frappe dans les photos, c'est les gros plans de personnages. Hein. On sent vraiment cette quête de l'humanité, cette quête de l'humain, cette quête de la rencontre. Qui va en effet permettre à Fabrice, tout au long de cet ouvrage, tout au long de ce voyage, de se trouver, comme tu disais tout à l'heure.
Donc ça a été aussi présenté comme le road movie d'un homme libre, à t'entendre, d'un homme profondément humain.
Ouais, ouais, je pense que l'une des grandes qualités de l'auteur, hein, de Fabrice, c'est que c'est quelqu'un de profondément humain qui recherche cette humanité à travers le voyage, qui recherche la rencontre. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai ressenti à la lecture de cet ouvrage.
Donc on va rappeler que c'est aux éditions Transboréales.
Alors c'est les éditions Transboréales, hein, c'est paru en 2007 chez Transboréales, dans la collection La Clé des Champs. Alors Transboréales est un petit éditeur qui se consacre à l'édition, à publier des ouvrages d'auteurs qui se sont engagés humainement, hein, dans de grandes aventures, hein, des grandes aventures humaines. Hein. C'est un ouvrage donc qui est paru en 2007 et que j'ai acheté il y a 2 ans pour la modique somme de 18 euros. Et franchement, on n'est pas volé pour ce prix-là. Hein. C'est vraiment un ouvrage que tout motard doit avoir dans sa bibliothèque. Tout motard qui aime le voyage doit avoir dans sa bibliothèque.
Bah, c'est super, Yanis. Merci. Merci pour la rubrique.
Je te remercie, papate.
You better watch yourself. I got my.
Voilà, on va se projeter directement le 7 mars pour cette fameuse journée de la femme, donc, qui normalement aura lieu le 8, hein, c'est le 8 mars, hein, mais ici dans le Nord, on va fêter, nous allons fêter, nous les hommes et les femmes, le 7 mars.
Voilà, parce que bon, on est en janvier, mais l'année file vite, et puis il faut qu'on parle tout de suite des grands rendez-vous, parce que ça va être un grand rendez-vous, hein, Monique,
oui.
Que ce 7 mars, pour Lille, ça sera le 7 mars. Il y a d'autres choses qui sont prévues aussi dans la région, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais la journée importante sera organisée donc pour la célébration, hein, de la journée de la femme, le 7 mars sur l'île.
Voilà, comme on avait fait l'année dernière, on avait fait par contre le 8 mars, journée internationale de la femme.
En fait, le samedi.
C'était un samedi aussi, et puis cette année, on a décidé que ce sera le samedi 7, parce que le 8, il y a aussi pas mal d'événements. Ça permet à tout le monde d'aller un petit peu partout. Et le 7, on a voulu faire ça cette journée pour justement se retrouver, avoir un maximum de gens et fédérer un maximum de motardes.
L'an dernier, vous aviez eu une belle réussite.
On était plus de 420 motardes, enfin motards et motards confondus, puisque les hommes sont venus aussi. Donc c'était une très très belle journée. Le temps était avec nous aussi. Et on avait fait ça un samedi aussi.
Vous reprenez le même principe d'organisation ? Ou il y aura peut-être des changements ?
Alors, c'est le même principe. Moi, je fais partie de la FFMC. Donc, la FFMC fait la sécurité du parcours. Et on part du complexe de Lausanne. On fait un petit tour dans le Pével. On mange un peu sur place, à Répipi, tout ça. Et puis, on arrivera à Seclin, très certainement, au Zen.
D'accord, donc il n'y a pas de retour comme l'an dernier sur le circuit.
Non, comme on part du circuit, on est en pourparlers pour justement préparer une petite surprise avant le départ.
Il y aura une animation.
On garde ça secret.
Donc les filles qui voudraient vous rejoindre, vous aider à organiser cette journée, sont les bienvenues ou pour l'instant ça serait un petit peu difficile à gérer ?
Non, elles sont les bienvenues. On a une page Facebook qui s'appelle Toutes les Ch'tis à moto et on a une adresse mail tlcamnord@hotmail.com où les filles peuvent donc venir nous aider en proposant leur service. Que ce soit donc dans l'organisation ou dans même la sécu, hein, il y a des femmes qui font de la sécurité routière et qui peuvent venir nous filer un coup de main, bien sûr.
Bah, un grand coup de main, c'est déjà de relayer l'info. Je pense que
déjà.
Toutes les copines doivent faire marcher.
Ça marche bien.
c'est ça.
Ça marche bien, ouais. Bah, toutes les ch'tis à moto, ça fait un an, hein, c'est un bébé d'un an. On a quand même fait pas mal de choses et donc déjà la première chose, c'était la journée de la femme le 8 mars dernier et l'atelier mécanique moto.
Vous êtes super active. On va parler de la journée de la femme, comme ça on va donner toutes les infos concernant cet événement. Et tout à l'heure, on va justement pouvoir s'attarder
aussi,
un petit peu.
Revenir un petit peu sur l'histoire de cette fameuse journée de la femme.
Hein, pourquoi une journée de la femme aussi, hein.
On la consomme, mais on ne sait pas d'où ça vient réellement.
Et aussi pourquoi c'est nécessaire aussi longtemps
de revenir un petit peu sur l'origine, la genèse de cette journée de la femme.
Oui,
et ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Hein. On ne pensait pas que ce type-là pouvait... créer une journée de la femme à 100 lieues, 10 000 km.
Mais voilà. Ça remonte beaucoup plus loin que ça.
Non, pas vrai.
Attends, pourquoi ce serait un homme qui aurait créé la journée de la femme? Non, mais ça va pas,
vous voulez
là.
Que je vous dise
Mais ça, c'est des sources masculines.
Non.
Oui, c'est de la contre-information, ça. C'est de la contre-information. Non.
Coupez le micro, Laurent. C'est simplement en 1921 que ce jour fut retenu par Lénine.
Ça, c'est la journée...
Voilà.
Pour
être la journée internationale de la femme. Voilà. Et il voulait ainsi célébrer les femmes qui, à Petrograd, le 8 mars 1917, ont manifesté en réaction à la révolution russe. Et progressivement, ce jour a été fêté dans les pays de l'Est. Et à cette occasion... Les hommes offraient des fleurs. Tout à l'heure, on disait qu'on ne ferait pas de fleurs ce jour-là. Eh bien, si, à leurs épouses, mères, grand-mères et même amies. Donc,
fleurs d'ortie,
même, même si t'as une
rose
copine, toi,
il
faut aussi des fleurs à tout le monde. Quoi.
Oui, mais ça, tu as raison et tu as tort.
Je m'en doute qu'elle allait dire ça.
Oui, parce que ça, l'histoire avec Lénine, c'était pour fêter la fête des mères, qui a été après mis
Pétain,
en place en France
mères.
Par Pétain.
Ah, oui, ça.
Mais ça venait effectivement de Lénine. Pouf, tout faux.
Non, mais il ne faut pas le décourager. Il voulait parler de la journée de la femme.
Ce que tu fais depuis le début de l'émission.
émission, d'aller chercher des infos sur Internet.
Oui, parce que je m'en doutais que tu allais me coincer sur ce coup-là. Donc heureusement, avec Christine, on est allé chercher quelques infos. Mais ça remonte bien plus haut que ça, hein, de l'Antiquité.
Chez les Grecs, peut-être.
Oui, l'Antiquité grecque.
Amateur de femmes, ouais. Les Grecs. Amateur de... bien placé pour le savoir.
Pourtant, c'est curieux, parce qu'on dit que toutes les Grecs sont plutôt amateurs de...
Ouais, mais non, mais ça, c'est la légende.
C'est la légende.
Mais comme on sait que les, comme on sait que les hommes faisaient beaucoup la guerre, les femmes avaient... Lysistrata, de son prénom, avait lancé une grève sexuelle contre les hommes pour justement mettre fin à la guerre. Donc ça remonte bien plus loin que ça. Ah ouais. Et quant à notre journée internationale de la femme, elle est partie quand même des États-Unis en 1909. C'était les ouvrières du textile qui ont donc manifesté. Et ensuite, après, effectivement, 1913 en Russie. Et en 77, elle a été reconnue par l'ONU.
Les Nations Unies,
et en
1947, oui.
Voilà. Et en 1982, c'était en France. Et donc, c'est là qu'est née la première journée internationale de la femme.
Et les auditeurs et auditrices qui nous écoutent vont participer à cette journée de la femme, mais avec l'idée de savoir d'où ça vient quand même, avec des gens qui se sont battus, et toute une histoire derrière cette journée de la femme. Hein.
Ouais, ce qui est important...
C'est pas que commercial. Quoi.
Non, c'est pas commercial. Oui. Ce sont des luttes de tous les jours. Hein. On n'est pas à la Saint-Valentin et à la fête de la mer. On est aussi à la journée internationale de la femme, donc toutes les luttes, toutes les femmes opprimées. Je vois par exemple les combats contre les sévices sexuels, les lapidations. J'ai appris il y a pas longtemps que je crois que c'est au Qatar où les femmes maintenant ont le droit de faire du vélo toutes seules. Enfin bon, des choses quand même aberrantes. Et en France, on est quand même assez libre.
Ouais. C'est un bon début déjà.
Il faut garder cette il faut garder cette liberté.
Oui, parce que c'est ce que
dans
je voulais
ans,
dire.
Ils pourront peut-être faire un peu de moto.
La Miche, je pense que ce qui est essentiel actuellement, c'est de se poser la question pourquoi c'est encore plus indispensable aujourd'hui de fêter cette journée qui est l'occasion pour toutes les femmes d'être solidaires par le monde, avec toute la résonance des réseaux sociaux, Internet, etc. C'est quand même essentiel que les femmes puissent montrer aussi que ce sont des personnes, sont des personnes, des êtres humains à part entière, et elles peuvent faire des choses sans que forcément ce soit sexué. Moi, j'ai, par exemple, il y a un motoclub indien, féminin, qui s'est constitué, et ces filles, elles sont hyper courageuses parce qu'elles viennent braver des tabous. Parce que pour pas mal d'hommes, on en rit à enfourcher un vélo, enfourcher une moto, c'est aussi écarter les jambes. Et c'est très sexué, et il y a des choses comme ça qui vont limiter énormément la vie des femmes, parce que derrière, il y a cet harcèlement sexuel qui est permanent. Et je pense que dans le discours que vous avez le courage de tenir, et qu'il faut pouvoir affirmer, c'est de dire que finalement, on ne voit pas toujours les hommes justement comme des êtres sexués, quoi. On n'est pas tellement comme personne. Donc on réclame un petit peu cette liberté d'identité, c'est-à-dire que on est capable de faire des choses, et puis
sûr, et puis sans tomber dans l'ultra-féminisme, on a quand même on revendique notre place dans la société, nous les femmes.
Oui, mais vous avez tout à fait raison.
Mais bien sûr.
C'est bien de le reconnaître. Mais la Miche.
Mais c'est un combat perpétuel.
J'ai l'impression que c'est un reproche, la manière dont tu me regardes.
Non, mais c'est un combat perpétuel. Hein.
Les hommes y participent.
Et les hommes y participent, on est ouverts à tous.
Oh, bah heureusement.
Et toutes. She was fully matured by the time she reached the age of 10.
So she tried to live her life. They said they wanted her to. She went to church, went to school. Never be the white man's fool. And Pastor Sam and Nathan Jones, they were just too hard-headed to leave her alone. And they both said the girls are sweet. She's 34, 38, and 22 at the time. And they call her Sweet Bone Island Red. Sweet Bone Island Red. Sweet Bone Island Red. Sweet Bone Island Red. Sweet sheep, that's what they said about Sweet Bone Island.
L'activité de Moni, c'est pas forcément que la journée de la femme tous les ans, c'est aussi une activité toute l'année.
Oui.
Moni, avec un atelier mécanique.
Depuis avril dernier, nous avons mis en place donc un atelier mécanique spécial motarde. Donc ça se passe au complexe de Lezenne avec Bruno Perlinski qui est président de l'association Les Amis de la Moto. Donc il travaille sur.
Oui, gentil Bruno. Hein.
Oui.
Hein, c'est il est très gentil.
Oui, oui, très sympa. Non, c'est vrai. Il est très sympa. Et puis, il donne beaucoup de son temps et de sa personne.
Voilà.
Si tu nous entends, Bruno.
Quand on a autant de femmes devant soi. Là,
et ben justement.
Il a besoin de donner sa personne.
Justement, il s'est fait aider de Jean-Yves, Roquette 3, plus connu sous le nom de Roquette 3, qui est venu tout de suite lui donner un coup de main. Parce que comme l'atelier prend quand même pas mal de
d'importance.
D'importance, ouais. Oui. Et puis, est venu se greffer un copain, Julien, qui est à la retraite et qui est bien féru en mécanique aussi. Donc, ils sont trois. Et en général, on a une quinzaine, voire on est monté jusqu'à 20 filles par séance.
Et vous avez trois niveaux.
Alors, on a
ouvert à toutes.
Voilà, on a trois niveaux. On a le stage initiatique qui permet de voir un peu les organes de sécurité de la moto. Donc, vérifier les plaquettes, les disques, les bases de la moto. Ensuite, on a un stage pratique premier niveau pour les vidanges, les changements de plaquettes, etc. Et ensuite, un stage 3 un petit peu plus poussé où, on peut faire monter des poignées chauffantes, changer des piles d'admission, changer une chaîne. Et donc, les filles sont très en demande et puis elles sont très, très motivées. C'est super.
Surtout pour le stage 3.
Surtout pour le stage 3. Donc, pour les piles d'admission. Et voilà.
J'avais dit que ça serait tendancieux. Il fallait pas l'évoquer. Moi, je préférais évoquer le pneu crevé, par exemple.
Oui. Bah, ça aussi, aujourd'hui, justement, depuis 10h ce matin, donc jusqu'à midi, les thèmes aujourd'hui, c'est la réparation d'un pneu et puis des piles d'admission.
Et c'est toujours suivi d'un un repas en commun.
Alors, quand il fait beau, eh bien, on se joint avec l'équipe du complexe, avec l'association, et on fait un barbecue, on boit un coup. Et sinon, quand il fait froid, là, comme en ce moment, bah, on va au resto, on cherche un resto et on mange ensemble et on finit la matinée comme ça.
Bon, donc pour s'inscrire, il suffit d'aller au complexe.
Alors, il suffit, non, pas du tout. Il suffit de, de s'inscrire sur la page Facebook. Donc, en message personnel, on donne l'adresse mail, numéro de téléphone. Et puis sinon, c'est tlcamnord@hotmail.com. Où là, on peut aussi. Il y a OVS aussi, on va sortir Lille, où tous les mois, je mets donc en ligne une proposition de sortie, donc cet atelier mécanique.
Très bien. Patricia, terminé.
Moi, j'encourage toutes les filles un peu curieuses de savoir comment ça se passe, de contacter Moni, de justement, on remettra les liens, les adresses possibles pour découvrir cet atelier et puis voir que c'est tout à fait accessible.
Tout à fait. On accueille toutes les filles, qu'elles soient avec moto ou sans moto. Voilà, il n'y a pas de problème.
Voilà, une excellente chose.
Far up again.
Voilà, on va changer totalement de sujet. Bien que non, on ne va pas changer de sujet parce que c'est toujours une moto avec un petit panier à côté, hein, à droite, une remorque, hein, une route. On peut parler sidecar. Voilà, maintenant, désormais, dans le magazine de la moto, tous les quatrièmes dimanches, les sidecaristes ont leur rubrique. Voilà.
Enfin.
Et ils vont pas nous envoyer de l'info s'ils veulent faire des balades ou je sais pas, ou chercher des moyens pour réparer.
Oui, pour se rencontrer, puisque la mécanique. À partir du moment où tu roules en sidecar, t'es un petit peu, l'enfant passage des concessionnaires. T'arrives chez le concessionnaire avec un sidecar,
il
regarde et on dit non.
Il veut pas.
Et quand tu non, voilà. Donc il faut déjà être plus dégourdi qu'un motard. Un motard c'est déjà dégourdi aussi bien homme que femme pour pouvoir réparer sa brêle. Mais en sidecar, soit tu te débrouilles et tu rencontres d'autres sidecaristes pour t'aider. Sinon t'es foutu, t'es mort. Donc, je voulais justement passer à la radio pour pouvoir j'ai monté une boîte mail exprès pour les sidecaristes et essayer de réunir tous les sidecaristes qui traînent dans le Nord-Pas-de-Calais pour pouvoir échanger nos problèmes, style ce que j'ai en ce moment avec mon K12 où on me demande une fortune pour changer des bougies. C'est quand même extraordinaire. Donc, il va falloir le faire soi-même. C'est pas compliqué de changer des bougies. Hein. Mais il y a une journée et demie de boulot parce que t'es en sidecar. Donc pour pouvoir discuter, partager, essayer peut-être de monter un petit forum sur Internet. Il existe déjà des forums sidecaristes, style sidecar, tout ça. Mais essayer de le faire plus régional. Parce que chaque fois que je rencontre des sidecaristes, et on en rencontre quand même quelques-uns dès que c'est l'hiver, ils sont toujours étonnés d'être tout seuls dans leur coin et puis qu'il n'y a rien qui va. Donc il y a quand même 7000 sidecars immatriculés en France. Rien que sur Kikinko, on est déjà 4. On n'est pas tous les 4 en train de rouler tout le temps, puisqu'on est 2 sur 4 à rouler quasiment tout le temps. Et il y en a au moins 2 sur 4 qui restent au garage.
Bon, la mode du sidecar a un peu passé quand même. Parce que regarde la production de certaines enseignes. Là, l'année dernière, je connais un concessionnaire, enfin, on va parler, c'est EML, hein,
ouais,
qui a vendu un sidecar.
Alors ouais,
il y a encore 10 ans.
c'est bien, voilà. Je te jure, c'est bien.
Il y a encore 10 ans, on en vendait 15, 20 ou même
ouais,
plus
non,
30.
Mais... À partir du moment où tu
le sidecar n'a plus c'est plus la mode.
Mais c'est-à-dire qu'il faut en reparler, il faut croiser les gens. Moi, je vois quand je sors, j'ai 2 sidecars, donc je fais partie de ces gens qui ont un petit peu les moyens. Mais j'ai un vieux K1100 attelé avec un EML avec une caisse Condor et un K1200S attelé avec un EML Sport que j'ai commandé. Il nous a fallu quand même un an pour l'avoir, quoi. Donc entre le moment où tu le commandes, même si c'est très cher, faut le payer, faut qu'il construise, faut qu'il fabrique la caisse et tout. Mais je connais quelques propriétaires de GSX-R ou de Triumph qui ont été un peu épatés de me voir rouler, quoi. Il faut enlever cette image de sidecariste vieux, ça se traîne. Il faut arrêter, quoi, parce que
l'idée,
ça surprend un peu.
Donc l'idée de cette rubrique, c'est de communiquer, de se rencontrer éventuellement,
communiquer, parler
de résoudre des problèmes mécaniques.
Oui, résoudre tous les petits problèmes inhérents au sidecar, et puis essayer de faire découvrir aux gens le sidecar, parler des courses, parce qu'il n'y a pas beaucoup de courses dans le Nord, il n'y a pas beaucoup de courses de côte et tout ça, et les rassemblements sidecar.
Et pourquoi pas non plus faire essayer à un motard qui... Parce que généralement, c'est quand tu as des enfants, hein, que tu ne veux pas passer à la bagnole,
ouais.
Donc qu'est-ce que tu fais?
On est tous venus...
Et éventuellement, justement, un motard qui voudrait acheter un side et tester la conduite, voir un peu comment ça se comporte sur la route.
Oui, il faut
une idée aussi, ça.
Avant de se lancer dans les frais, il faut déjà essayer. De toute façon, il n'y a pas de solution.
Ouais, mais comment essayer? Il faut que tu rencontres
quelqu'un. Oui, il faut que tu puisses rencontrer quelqu'un. Mais de toute façon, il faut essayer parce que ça n'a rien à voir avec la conduite moto, ça n'a rien à voir avec la conduite voiture.
Voilà, c'est vrai.
Moi,
c'est totalement différent des deux véhicules.
Moi,
moto
je dis toujours
et
que c'est un mélange entre le catamaran et le karting. Et puis, comme ça va bien, quoi. Si tu as fait un peu de voile et un peu de karting, tu dois t'en sortir en sidecar. Mais surtout, éviter d'acheter directement sans essayer parce que là, ça va être une catastrophe, quoi. J'ai eu encore le cas il y a 3 semaines, j'ai un copain qui m'a dit « Oui, je vais acheter un sidecar ». Et puis on a dit « Tu vas essayer ». On lui en a prêté un pendant une semaine. Au bout d'une semaine, il a dit « Bon, c'est pas la peine ».
Il y a beaucoup de motards qui sont déroutés. Hein, la prise en main, au bout de 100 km, ils se disent « Non, on laisse tomber ».
De toute façon, c'est soit tu vas aimer, t'es fait pour le sidecar, soit c'est même pas la peine d'essayer. Il y avait le vieux vin que les vieux motards de Lille ont connu, qui était concessionnaire Suzuki et qui faisait le tour de la porte de Paris en MZ avec le side dans l'air, partant de pluie sur les pavés, qui disait « De toute façon, c'est la loi des 7 », c'est Krashka disait la même chose, c'est la loi des 7 en sidecar, t'auras un accident dans 7 secondes, 7 minutes, 7 jours, 7 ans, on sait pas,
ah ouais,
mais t'en
ouais,
auras, hein,
ouais,
c'est
bon,
sûr.
Bon.
Et voilà, donc où on sait peur, et puis Dieu sait qu'on peut se faire très très peur en sidecar, mais ça amène un plaisir extraordinaire.
Il y a Monique qui est toute blanche à côté de toi.
Elle est pas dans le side. Hein.
C'est ce qu'il dit.
Non,
dans le Nord,
non,
on dit péter un coup, ça va aller mieux.
Non, c'est intéressant.
Et sans tu lui as fait peur.
Et sans compter que le sidecar n'est pas fait pour emmener les femmes qui ne conduisent pas. Hein, je connais énormément de femmes qui roulent en sidecar et qui sont aussi dégourdies, aussi habiles que les garçons.
Voilà, donc bon, une rubrique de communication, hein, tous les mois,
oui,
on essaiera de dire un peu
de rencontrer les gens et tout.
Des gens et
donner l'opportunité aux gens de pouvoir essayer des sidecars
et puis faire ressortir les sidecars surtout.
Oui, faire ressortir.
Parce qu'on n'en voit plus, c'est vrai, on n'en voit plus.
Et il y a quand même un truc qui m'interpelle, moi, en tant que sidecariste, c'est que c'est vrai qu'en France, il y a une crise chez les constructeurs de sidecars, hein, une crise de mode, on ne sait pas. Mais en Allemagne, par exemple, il y a encore 30 constructeurs. Alors oui, qu'on a moins de 5 en France. En Allemagne, on en voit beaucoup.
Mais il y a toutes ces histoires de législation, de prix, c'est beaucoup moins cher en Allemagne qu'en France. Et puis il y a toujours, on va attendre 2016 pour que la loi des 100 chevaux revienne. Mais moi, je vois bien qu'il faut énormément de puissance dans un side pour que ça puisse marcher, pour pas avoir l'air trop ridicule. Alors, mais là, j'ai reçu ce matin, j'ai reçu des photos de la dernière concentre en Allemagne qui était réservée au side BMW. Donc, tu vois, marqué, une concentration bien marquée. Ils étaient quand même 400 sidecars en Allemagne.
Oui, alors justement, on les voit plus ici sur l'île, dans la région du Nord. Mais justement, Christine a la raison. Hein,
voilà,
on les retrouve beaucoup dans des rendez-vous, genre type hivernal ou rendez-vous.
Oui, ou rendez-vous autre. Sidecar.
Oui, donc une hivernale en sidecar à Saint-Jorios, c'est donc sur le lac d'Annecy, en Haute-Savoie. Donc c'est le 31 janvier, ça s'appelle le rallye des cols blancs.
Oui, mais c'est pas dans le Nord.
Non, c'est pas dans le Nord, mais il y en a une.
Non, mais il y en a toujours des. Il ne faut pas oublier que les éléphants, la grosse concentration des éléphants a été faite par les sidecaristes allemands. Hein. Donc. Si vous allez aux éléphants, c'est grâce aux Allemands qui roulaient, les militaires allemands qui roulent en sidecar, qui ont décidé de se rendre
dans le pays. Ça, c'est une légende.
Non, c'est pas une légende.
C'est un journaliste, c'est Ernst Leverkurz qui était journaliste d'As Motorrad qui a créé cette concentration. Et après, on a laissé courir le bruit que c'était des anciens nostalgiques de la Wehrmacht et de l'Afrika Korps.
C'est plutôt cette version.
C'est vrai que c'est le bruit qui court depuis très longtemps.
J'ai lu aussi celle-là. Ouais, c'était un journaliste, effectivement.
Ouais, c'est Ernst Leverkurz, voilà. Dit Klax.
Et il y a Benoît de la Fédé qui veut aussi apporter sa petite touche à notre discours.
Voilà, la Fédération française des motards en colère. On a notre organisme de formation qui s'appelle l'AFDM, l'Association de formation des motards. Et qui organise des stages spéciaux sidecar, parce que comme tu dis, c'est complètement différent d'une conduite moto traditionnelle. Alors bien sûr, c'est pas encore dans le Nord, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le Nord, mais ils sont aussi demandeurs de faire venir des... Alors ça se passe à Nancy, hein, dans le 54, mais les formateurs de là-bas peuvent se déplacer et éventuellement, pourquoi pas, organiser une formation spéciale sidecar pour ceux qui voudraient s'y mettre ou s'y remettre, ou voilà, ça peut se faire, bon, voilà. Ça existe.
Il suffit tout simplement, bon je veux toujours parler pour moi, mais Anaïs et Yanis, elle est la même vie que moi. Rouler sidecar et moto, c'est-à-dire que tu prends ton sidecar le matin, tu fais 200 bornes, tu rentres au garage et tu prends la moto solo, même s'il y a longtemps que tu roules, il faut 3 secondes où tu te dis le monde n'est pas du tout le même, mais le plaisir est excellent. Ouais, tu redécouvres le plaisir de la moto quand tu descends du sidecar pour prendre la moto. Ouais, premier virage, tu y vas, quoi, tu tapes dedans.
Et vice-versa.
Oui, et Château de Versailles.
Bon, on a planté le décor de cette nouvelle rubrique sidecar. Désormais, on se retrouvera donc le mois prochain, Rafa.
Ah, je crois que c'était le dernier dimanche du mois.
Ah oui, mois prochain, dimanche du mois. Mais voilà. Et c'est pas le dernier, c'est le quatrième.
C'est le quatrième.
Parce que quelquefois, il y a 5 dimanches.
Bon, si tu me laisses encore 2 secondes, je voudrais parler de...
Oui, 2 secondes.
Je voudrais pas parler d'un magazine, parce que nous, on lit Boxer Mag, parce qu'on roule en BMW. Mais il y a chez Dedum, qu'ils ont sorti un sidecar quand même assez extraordinaire, qui s'appelle le Zéro. Donc, soit vous allez sur Internet, vous tapez Boxer Mag et vous allez tomber sur l'article, soit vous allez au libraire et vous achetez le magazine. Donc j'ai appelé pour avoir un rendez-vous pour pouvoir aller l'essayer. Ils ont attelé un 4S100R BMW qui est quand même pas à vous, avec un side qu'ils appellent Zéro. Et quand tu regardes sur la photo, l'ami, je regarde, il n'y a pas de carrosserie.
Ah bah effectivement, il n'y a pas de carrosserie.
C'est très très proche du sidecar course. Ouais. Et c'est un engin qui coûte que 10 000 euros. Et chez Dedum, ils ont réussi à atteler sans faire trop de frais, c'est-à-dire sans changer la fourche avant, en restant avec le pneu d'origine à l'avant en 16 pouces, mais en le mettant en 130. Et en restant en route normale.
Effectivement, tu as raison de parler de prix, parce que le sidecar, c'est pas pour rien.
Si on peut parler, le dernier que j'ai fait atteler, ça coûte le prix d'une belle voiture.
Voilà.
Quoi.
Donc ça, il y a aussi ce paramètre.
Ça coûte. Alors soit on tombe dans l'ancienne technologie, les sidecars pour chat balancier, les vieux BM et tout, et pour 4-5 000 euros, il y a moyen d'avoir un sidecar. Dès qu'on veut avoir un peu de sport, c'est 30 000.
Tu vois, mais il y a Laurent qui fait des grands signes. Hein.
Oui,
il veut pas. Il est prêt, je vois son boulot. Et on passe à un morceau de musique maintenant.
Ben vas-y. We'll be right back.
Allez, on se dépêche, il nous reste allez, une huitaine de minutes. On commence avec le complexe, Christine.
Voilà, donc toujours hein, ce circuit. Donc je rappelle qu'il est en danger de fermeture. Donc la fédération oblige à faire des travaux. Donc ces travaux s'élèvent à 270 000 euros. Donc l'association s'est engagée pour 100 000 euros, mais il reste 170 000 euros. Aujourd'hui, on est à plus de 5 000 euros de dons, mais c'est pas assez. Il faut se mobiliser. Donc si vous vous sentez concerné, vous téléchargez le formulaire de remise de dons disponible. Donc sur l'adresse pistelezen.free.fr, vous cliquez sur la news et vous trouverez ce formulaire.
Toujours au complexe moto, Monique.
Oui, mais tout donc, je rappelle l'atelier mécanique une fois par mois. Donc, et c'est gratuit.
Gratuit.
Absolument gratuit. Je me charge
de
la.
Tout à l'heure, t'as pas dit ça, t'as pas dit.
J'ai dit gratuit.
T'avais rajouté quelque chose.
Les pubs d'admission, c'est gratuit. Et donc, c'est gratuit, tout est gratuit. Non, je ramène à manger et certaines ramènent à boire et voilà. Et
ça fait rire même les auditeurs qui sont derrière la vitre. Tu vois, comme quoi ça marche.
Et vous pouvez donc voir les dates là. La prochaine n'est pas encore annoncée. On voit avec Bruno Pernaski. Vous pouvez nous retrouver donc sur la page de Toutes les Ch'tis à moto et nous demander aussi à tlcamnord@hotmail.com et on vous donnera donc toutes les infos.
Benoît, dimanche prochain, enfin le week-end prochain, c'est la grand-messe dans le Nord, Pas-de-Calais, lors du repas. Et c'est le 40e. Alors,
voilà, le 40e,
Donc là, ça y est, la Fédé a bloqué pour les relais Calmos.
Voilà, c'est notre rendez-vous, c'est le rendez-vous du Nord Pas-de-Calais. Hein, et donc, pour l'antenne Nord, ce sera donc, le dimanche uniquement. On change un petit peu de formule cette année, on va essayer de tester autre chose, hein, puisqu'on se rendait compte que sur l'autoroute, sur la 16, c'était un peu devenu.
Il faisait froid là.
Faisait froid, puis beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie pour des fois pas beaucoup de motards qui venaient nous rendre visite, donc on a un peu changé la formule cette année. On va se joindre au motoclub Les Red Zones de Calais, qui eux organisent un gros départ groupé donc de Calais jusque Boulogne et ensuite de Boulogne jusqu'au Touquet. On laisse les gens se débrouiller tout seuls parce que là il reste plus grand chose et puis c'est difficilement gérable. Donc on donne rendez-vous à tous les motards qui veulent venir nous faire un petit bonjour, manger une petite viennoiserie offerte et puis éventuellement un petit entretien mécanique, gonflage de pneus,
ben, dressage
de chaîne.
Oui, voilà,
bien sûr. Mais sûrement on compte sur tout le monde. Et voilà, donc on vous offre à manger et à boire, on vous offre de quoi vous réchauffer. Donc c'est le 11 place Foch à Calais. Le bar s'appelle l'Overcraft. On a un grand parking, des tonnels pour vous accueillir et une équipe gonflée à bloc.
D'accord.
Voilà, comme,
Et c'est sur la page du calendrier aussi. Voilà, numéro de téléphone.
Sur la page 10 voilà. du calendrier. Voilà. Hein, et même, il y a un rassemblement aussi sur la place de la mairie de Courcholette aussi. Voilà. Organisé.
Voilà. Bon, et il y a aussi pour le 62.
Et il y a celui du Pas-de-Calais aussi qui est le parc, hein, comme d'habitude. Donc eux, ils ont l'avantage de faire sur deux jours. Ils font le samedi donc de 9h à 19h et le dimanche de 7h à 17h théorique, mais on sait que selon le temps et selon. On accueillera les motards un peu plus tard, puisque le gros avantage de ce relais, c'est d'être aussi là sur le retour. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas que l'aller, il y a aussi le retour. Et des fois, le retour, il faut aussi prendre un peu de repos, se réchauffer, pas hésiter à rendre visite à nos amis du Pas-de-Calais qui vous accueilleront.
Normalement, il n'y aura pas de neige, hein, parce qu'on a regardé la météo.
On espère, on croise les doigts.
Il y a toujours un doute.
Il y a toujours un doute.
À cette époque-là, février.
C'est toujours un peu.
Mais il faut aller en sidecar ce mois-là. Voilà, on n'a pas parlé de la neige en sidecar. On en parlera le mois prochain. C'est un délice, j'avoue. Que là, c'est qu'il y a sur la neige.
Là, on se marre.
C'est le pied, le panard.
Là, on vous attend, les motards.
C'est le panard. Voilà. L'AG.
Voilà, l'AG aussi, donc c'est le prochain événement. Hein. C'est donc le 28 février au bar de la Cité, rue Sylvestre-Vérust, à 14h. C'est ouvert à tous, n'hésitez pas, si vous voulez venir nous rencontrer, voir un peu comment ça se passe, et pourquoi pas vous investir, nous donner un petit coup de main. On est toujours preneurs, hein. on n'est jamais assez nombreux pour défendre la moto. Voilà. Et puis après, on continue.
Et toutes les semaines aussi,
Tous les vendredis, à 19h, au 145 rue Nationale à Lille. Tous les premiers de lundi, chaque mois, au bar Le Contemporain à Dunkerque. Voilà, donc là il y en a une lundi pour nos amis de la côte et du littoral. Voilà, donc voilà un peu les infos. Et puis voilà, la page Facebook, le site fonctionne, on essaye de le mettre à jour dès que possible. Et puis toutes les infos sont dessus.
Bon, pour l'Enduropal, on rappelle un petit peu les horaires. Hein, c'est 14h, parce que là ça commence le vendredi.
C'est les vieux qui
vont faire leur enduro, tu vois. Des machines avant 80.
Ils t'ont pas trouvé assez vieux parce que tu devais le faire, il me semble, non? Ils t'ont pas trouvé assez, t'es trop jeune pour le faire. C'est rassurant, c'est rassurant.
Oui, ça me touche. Ça me touche. Non, ça me touche. Nous, ça me fait quelque chose.
J'ai toujours dit que tu
pouvais pas trouver assez vieux pour le faire. J'ai dit, mince, là, quoi.
T'avais beau montrer ta carte d'identité, t'en pas
Bon, pas cru. Donc c'est le vendredi vintage. Voilà, et donc c'est à partir de c'est des manches de 30 minutes hein, de 14h à 14h30. La deuxième manche, il y aura deux manches parce qu'à l'origine d'enduro, il y avait deux manches hein. Voilà, après ce sera de 14h de 15h30 à 16h. Ça c'est le soir, il y aura un feu d'artifice sur le front de mer, c'est le vendredi soir hein.
C'est pour fêter l'air. Un feu d'artifice pour les vieux.
Il va y avoir à 19h aussi dédicace, pilote et remise des prix de l'enduro vintage au palais. J'aurais pu avoir une coupe Yanis éventuellement si j'avais fait le vintage.
À condition que tu aies réussi à démarrer ton 500 XT, ce qui n'est pas évident.
Bon, voilà.
Pour les vieux, c'est dur.
L'enduro pas junior, hein, ce sera le samedi, hein, 9h30, 11h. Et puis après 13h, 15h30, c'est le quoi? Les 4 roues? Bon, les 4 roues, nous, on n'en parle pas trop. Hein. Ouais. On va jusqu'au 3, hein, il y a l'arrêt. Hein. Après, on n'en parle plus. Et puis après, dimanche, eh bien, 9h30, 10h30, c'est l'Enduropal Espoir. C'était, l'année passée, c'était appelé ça les kids.
Ouais, hein,
ils ont changé. Kids, ouais. Et puis 13h à 13h, là, c'est la grand-messe. Voilà. C'est le grand départ pour l'Enduropal du 40e anniversaire. De l'enduro du Touquet. Voilà, ce générique il arrive, il nous reste 2 minutes pour terminer. Même pas, Laurent me dit même pas 1 minute. Patricia, merci, c'était très bien. Merci au mois de février, le 4e, je sais pas, j'ai pas regardé sur le concert. On verra bien. Merci quand même. Merci
bon, Yannis
pour cette brillante interprétation, prestation pour ton bouquin. Alors, Rafa, bon, on continue hein, sur le sidecar. D'accord, on parlera de la neige dimanche, le mois prochain.
Oui.
Merci Moni.
Et de rien, donc merci à vous de m'avoir accueilli.
Je te laisse toujours les pipes tranquillement.
Tu laisses les pipes tranquilles, déjà, voilà, dans un premier temps.
Et
rendez-vous le 7 mars.
Le 7 mars, hein, pour la journée, voilà. Merci Benoît.
De rien.
Christine, alors super, hein, encore une fois, là, super.
Merci.
Et puis alors là, et alors après pour terminer, Monsieur Laurent. Ouais. Monsieur Laurent Rodier, c'était exceptionnel.
Au revoir.